en nous recueillant un instant et en demandant à l'Esprit Saint de nous inspirer les uns et les autres pour découvrir la force et l'actualité de cet évangile. Merci Seigneur de nous avoir réunis autour de ta parole, à l'intérieur de ta parole. Fais que cette parole devienne toujours davantage vivante en nos vies. Donne à ta parole d'exister dans chacune de nos vies d'une manière unique, réel, dans la paix et surtout dans la joie. Père, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre frère et notre Seigneur, qui vit avec toi et avec nous dans la communion de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen.
Probablement que vous vous dites Saint Marc connu. Et c'est vrai, nous entendons l'évangile de Marc au moins une fois tous les 3 ans dans la liturgie. Et nous pensons que nous en faisons une lecture continue, parce que les évangiles que nous avons pendant l'année B, lorsque nous les mettons bout à bout, nous formons la totalité à peu près pour Saint Marc, à peu près, la totalité de l'évangile. Pourquoi Saint Marc est-il important, alors que pendant des siècles, c'est surtout à Saint Matthieu et à Saint Jean que l'on s'est intéressé. Et vous trouverez beaucoup d'anciens commentaires, surtout les pères de l'Église, commentaient de préférence Saint Matthieu. Saint Matthieu, qui est généralement regardé comme le plus long, et Saint Jean, que l'on regardait comme le plus élevé. Et cependant, si vous regardez ce qui paraît ces dernières années, depuis une dizaine d'années, les commentaires de Saint Marc abondent. Et je vous en montrerai quelques-uns. J'ai pris ici quelques-uns des plus simples, mais il y a du plus simple au plus compliqué. Il y en a vraiment pour toutes les bouches et pour toutes les oreilles surtout. Et donc maintenant, on se met à redécouvrir Saint Marc. Pour quelle raison ? D'abord, et les jeunes aiment bien généralement Saint Marc, parce que c'est le plus court. Il n'y a que 16 chapitres. C'est aussi celui qui nous met, nous pourrions dire, en collision frontale avec Jésus, la personne de Jésus. Les autres aussi, direz-vous, mais les autres sont davantage circonstanciés. Ici, on ne peut pas échapper au visage de Jésus, si on veut lire l'évangile de Marc. Il est là, constamment présent. Et la caractéristique de l'évangile de Marc, c'est que quand Jésus est présent, il tisse des liens, des relations. Avec Jésus, on n'est jamais seul avec lui, on est toujours avec. Et ça, c'est une des caractéristiques importantes, essentielles de l'évangile de Marc. Et quand je prends cet évangile, je me souviens de la première fois, je ne sais pas combien de temps, hein, Pierre Leroy aurait pu vous le dire, hein, nous avons pris ici, tout au début de ces sessions sur l'évangile, sur la Bible d'une manière générale, c'était par lui, nous avions d'abord fait quelques aspects de l'évangile de Matthieu, puis on avait pris immédiatement Saint Marc. On commence généralement par là. Et pour les jeunes, c'est l'évangile le plus simple, le plus courant. Il n'y a pas beaucoup de discours chez Saint-Marc, vous n'en trouverez qu'un, et encore réduit au minimum. Et ceci est une deuxième caractéristique de l'évangile de Marc, c'est que l'on est tout le temps en route, en chemin, et que cela presse. Une quarantaine de fois, si vous avez une traduction qui est un peu proche du grec, une quarantaine de fois dans l'évangile, vous trouverez l'expression « et aussitôt ». Aussitôt. On dirait qu'on est pressé dans cet évangile. Et donc c'est un évangile qui nous raconte une histoire. C'est un récit, pratiquement d'un bout à l'autre. Pas beaucoup de discours, il y a des paroles, parce qu'il y a des rencontres sur la route, mais on avance. Et cette avance, ce chemin qui avance, prend de plus en plus d'importance dans l'évangile lui-même. Jésus prend de plus en plus d'importance jusqu'à couvrir tout notre horizon, mais aussi notre interpellation par lui prend de plus en plus d'importance. On a écrit de cet évangile que c'était l'évangile de la passion et de la résurrection de Jésus avec une longue introduction. Et c'est vrai aussi. L'actualité de la passion et de la résurrection de Jésus est bien manifestée dans l'évangile. De Saint-Marc, nous ne savons pas grand-chose. Pourtant, nous avons quelques éléments qui nous viennent des Actes des Apôtres, puisque les Actes des Apôtres nous parlent d'un certain Jean-Marc. Souvent, on avait deux noms. On avait un nom hébraïque, Yohanan, Jean. Marcos est un nom qui est plutôt gréco-romain. Et beaucoup de juifs de l'époque, car on s'était passablement hellénisé les deux siècles qui préparaient la venue de Jésus. Et nous avons là un milieu que nous ne connaissons pas tellement, mais qui est important pour que nous découvrions ce qui faisait la vie de l'époque là, dans ce que les Romains appelaient de manière un peu dédaigneuse la Palestine, puisque le mot Palestine vient du mot philistin, et que les philistins étaient les grands ennemis d'Israël, eh bien les Romains avaient baptisé ce pays du nom des ennemis d'Israël, les philistins. Donc, la Palestina, c'était une province romaine. C'est de là que vient le nom, mais il faut savoir que c'est un nom qui apparaît toujours méprisable pour une oreille juive, une oreille qui est habituée à se découvrir en Israël. Et peut-être que ça nous ferait percevoir aussi des implications pour aujourd'hui. Donc la Palestine était une province romaine, tout à fait hellénisée, et ce Jean-Marc, donc qui avait hérité de ces deux noms, avait une femme, une mère, qui était la femme de la communauté, de la première communauté de Jérusalem, puisque c'est chez elle que les apôtres et les premiers disciples se réunissaient. Probablement, au-dessus de la vieille ville de Jérusalem, près du mont Sion. C'était en tout cas dans ces parages-là que l'on se réunissait dans la première communauté chrétienne. Et Jean-Marc, le fils de cette femme, est devenu le compagnon de Paul pendant un certain temps, et notamment dans l'évangélisation de Chypre, et puis il s'est séparé de Paul. Mais il semble que la réconciliation se soit faite par après. Et on retrouve saint Marc comme disciple de Pierre à Rome. Et on pense que l'évangile de Marc est un peu le décalque de l'enseignement de Pierre, en tout cas l'écho très personnel de l'enseignement de Pierre, dans une communauté de juifs de Jérusalem, de juifs de Rome, pardon. Jérusalem, c'était Matthieu, Matthieu est resté très fort dans l'ambiance sémitique, tandis que Marc parle plutôt aux juifs de la diaspora, juifs devenus chrétiens, bien entendu. Nous ferons spécialement attention, en lisant cet évangile, à la manière dont les choses sont racontées. Quand j'ai commencé ma théologie, on insistait très fort sur l'historicité des évangiles. Historicité vue d'une façon extrêmement pauvre et mesquine, je dirais. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Autrement dit, qu'est-ce qu'on peut encore percevoir de ce qui s'était passé autrefois? Bien sûr que c'est à partir d'événements qu'on a écrit. On n'écrit pas simplement pour raconter des histoires inventées. C'est à partir de l'événement Jésus qu'on a écrit les évangiles. Et il se fait que c'est saint Marc qui est vraisemblablement l'initiateur du genre littéraire évangile. C'est lui qui, pour la première fois, en tout cas, utilise ce terme « euangelion », « bonne nouvelle », voulant signifier que cette bonne nouvelle, c'est pas un bouquin, c'est pas un livre, cette bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus. Il est la bonne nouvelle, comme il le signale, de Jésus, Christ, c'est-à-dire Messie et Fils de Dieu. Nous allons y venir tout de suite. Mais ce qui est important, lorsque nous lisons l'Évangile aujourd'hui, après 50, 60 ans, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi l'Évangile a-t-il été écrit de telle ou telle manière. Bien sûr que pour Matthieu, pour Luc, pour Jean, comme pour Marc, c'est la personne de Jésus qui est centrale. Et pour saint Paul aussi, lorsqu'il parle de son évangile, il parle de Jésus vivant. Jésus vivant. Non pas tellement de Jésus qui a vécu parmi nous, bien sûr, il n'est vivant aujourd'hui que parce qu'il a vécu parmi nous, une trentaine d'années, 36 ans probablement. Mais nous parlons à partir d'un vivant. À partir de Jésus ressuscité. C'est pourquoi nous ne venons pas à l'Évangile sans rien. Nous connaissons déjà l'Évangile. Enfin, nous pensons le connaître. Nous avons déjà lu, et j'espère bien que nous avons déjà lu tout d'une traite, ça prend une heure et demie à deux heures, l'Évangile de Marc. C'est facile à lire, hein, tout d'une traite. J'espère bien que nous l'avons fait. Mais si on nous le répète tous les trois ans dans la liturgie, si on nous raconte les mêmes textes, ce n'est pas évidemment pour nous informer, puisque jusqu'à un certain point, nous sommes informés. C'est pour nous reformer constamment. C'est parce que ces textes nous saisissent à des moments différents de notre vie. Et qu'il y a toujours à approfondir et toujours à redécouvrir la nouveauté de cet évangile, comme des autres bien entendu. Nous n'avons pas épuisé l'évangile, ça ne s'épuise pas. Je dirais plutôt que l'évangile nous épuise, parce que son exigence, pas extérieure, pas du tout, mais la douce exigence intérieure de l'Évangile ne nous permet pas de nous installer. Elle nous désinstalle constamment. Et c'est cela sa nouveauté. Donc nous allons essayer de lire ce récit en faisant attention à la manière dont il est écrit, de façon souvent abrupte, beaucoup plus abrupte que Matthieu par exemple. Matthieu est beaucoup plus circonstancié. Matthieu fait beaucoup plus d'allusions et surtout de citations de l'Ancien Testament, tandis que Marc est beaucoup plus sobre. Il nous fait regarder un vivant, quelqu'un que nous connaissons bien par notre liturgie, par notre prière, par les contacts que nous avons avec le ressuscité, mais dont nous devons chaque fois redécouvrir l'actualité dans notre existence. Et j'aime bien de commencer par Saint Marc, parce que Saint Marc nous met d'emblée à l'intérieur de son évangile. L'évangile parle de Jésus et de nous. Nous ne sommes pas extérieurs à cet évangile. Cependant, Saint Marc lui-même, l'auteur de l'Évangile, n'apparaît pas de manière particulière. Il est une voix, et il faudra découvrir petit à petit que cette voix est intérieure. C'est ce qu'on appelle dans la théorie actuelle des actes de lecture, comme on l'appelle. C'est ce qu'on appelle le rédacteur omniscient. Celui qui raconte l'histoire, on a l'impression qu'il sait tout, qu'il est à l'intérieur des personnes, qu'il est même à l'intérieur de la conscience de Dieu. Il nous raconte l'histoire comme si nous y étions. Je commence tout de suite la lecture. Vous avez plusieurs traductions, elles sont bonnes. J'aime beaucoup la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, qui est une véritable traduction, et elle a l'avantage de mettre tout au présent. Et c'est un peu comme cela qu'il faudrait lire, mettre tout au présent, parce que c'est ce que l'Évangile dit. Il nous dit la réalité présente, Jésus apparaissant dans notre existence d'aujourd'hui. Nous savons qu'il est ressuscité, donc il est présent. Donc il peut s'adresser à nous, comme sur les chemins de Galilée. Vous avez une traduction qui a été faite par le père Festugière, qui est décédé maintenant, qui a beaucoup travaillé Saint-Marc, et tout le milieu gréco-romain en Terre Sainte, qui a publié il y a exactement 10 ans, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Marc. Il y en a d'autres. Moi-même, j'ai fait autrefois, je ne sais plus de quand ça date maintenant, de 74 donc, la bonne nouvelle de Jésus selon Saint Marc. À ce moment-là, il n'y avait pas encore le foisonnement des commentaires que nous trouvons aujourd'hui. Et ce n'est pas à proprement parler une traduction, c'est une transposition du grec. Pour celui qui ne connaît pas le grec ou qui ne le connaît pas bien, eh bien, nous avons essayé de garder l'ordre des mots du grec et de traduire toujours le même mot grec par le même mot français, pour qu'on puisse avoir une petite idée de la force de cet évangile. Donc si vous avez cette édition qui est épuisée maintenant, depuis 2 ans, la bonne nouvelle de Jésus selon saint Marc, bien, vous pouvez toujours la reprendre, ça peut vous aider. Je prendrai de temps en temps celle-ci, de temps en temps je me référerai à Sœur Jeanne d'Arc, précisément à cause du fait qu'elle le reprend au présent, comme d'ailleurs on l'a fait dans la liturgie actuellement, à l'année B. Je lis le début, c'est-à-dire les 13 premiers versets, qui servent en quelque sorte de prologue. Je le lis, et puis nous verrons petit à petit ce que cette introduction signifie pour nous. Car, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse narrative, c'est-à-dire le sens du récit, faut toujours raconter aux enfants. Et Saint Marc est un maître, bien, il faut faire attention dans le texte à cette dynamique du récit et au rapport que le récit constitue entre le narrateur, Saint Marc, et le lecteur d'aujourd'hui. Vous savez comme moi, surtout ceux qui sont catéchistes, qu'il est essentiel, ou bien les parents, ou les grands-parents, c'est pareil. Vous savez que l'essentiel, lorsque on fait le catéchisme aux enfants, ce n'est pas le contenu, c'est le lien, la relation qui, à travers la catéchèse, s'approfondit entre le catéchiste et l'enfant, entre les grands-parents ou les parents et les enfants. C'est ça qui est essentiel. On construit un lien. Et c'est cela que l'évangile de Marc veut nous manifester. Comment un lien se construit-il petit à petit entre le narrateur d'autrefois et le lecteur d'aujourd'hui? On commence souvent par capter l'attention de l'enfant, par lui dire des choses qu'il connaît, mais autrement, et des choses qu'il ne connaît pas et qui vont lui permettre de questionner. Les évangiles sont faits pour que nous posions des questions. Ce n'est pas une information, nous l'avons l'information, par ailleurs. Mais l'évangile nous pose des questions. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, ou Messie, mais il faudra dire ce que ça veut dire, Fils de Dieu, inouï. Bonne nouvelle de Jésus. Jésus, c'est un nom terrestre. Christ, c'est un nom d'histoire. Un Christ, c'est un oint. Quelqu'un qui a été oint d'huile. Et pas n'importe qui, mais le Christ, c'est David, c'est le roi d'Israël, quelqu'un qui a été oint par Dieu pour mener Israël jusqu'à son accomplissement. Ce Messie, c'était le roi David, c'était le roi Salomon, ça a été les autres rois, mais qui n'égalaient ni l'un ni l'autre, et qui étaient parfois franchement mauvais. Et donc quand on dit Christ, quand on dit Messie, c'est une image déjà, en quelque sorte un peu mythique. C'est celui que l'on espère comme le roi, enfin bon, totalement bon. Enfin accompli. C'est ça, Christ. Donc, le terme de Christ se trouve toujours en avant. C'est celui que nous espérons. Et dans la tradition juive, qui est le Christ? Quel est le roi accompli dans toute la force de l'âge? Et un bon juif vous dira, mais le Messie, C'est toi, dans la mesure où tu accompliras ce visage que tu attends, et à force de l'attendre, tu l'accompliras dans ta vie, parce que cette attente est une espérance qui va te faire vivre, et donc le Christ, c'est au fond l'image du roi d'Israël que Dieu attend de nous, et qu'il dessine sur nos faces. Fils de Dieu. Dieu a-t-il un fils? Mais oui, bien sûr, il en a des quantités. Chaque homme, créé à son image, est fils ou fille de Dieu, car Dieu est à la fois père et mère. Et donc là aussi, c'est chacun d'entre nous. Mais le roi d'Israël est fils d'une manière particulière, parce que il est cette image donnée sans cesse au peuple par le fait qu'il est là, bon ou mauvais. Il est parce qu'il a été déposé là, choisi là par Dieu, il est cette présence de Dieu signifiée. Et donc plus nous découvrirons combien le Fils de Dieu, Jésus, le Messie, nous fait fils et filles de Dieu et Messie, plus nous entrerons dans cet évangile, plus nous deviendrons cet évangile vivant. Voilà son propos. Et en même temps, il nous dit, dans ce premier verset, il nous dit quel est son projet et son plan. En effet, juste au milieu de l'évangile, nous découvrirons Pierre, à la fin du chapitre 8e, il y a 16 chapitres dans l'évangile de Marc, donc 8, juste au milieu, topographique, de l'évangile, nous découvrirons Pierre dire à Jésus, « Tu es le Messie, tu es le Christ. » Découvrant par le même fait qu'il était lui aussi ce disciple du Messie. Dire à Jésus, « Tu es ceci », c'est dire aussi ce que nous sommes par rapport à lui. Et à la fin de l'évangile, tout à la fin, au moment de la passion de Jésus, quand Jésus meurt, nous trouvons celui qui a crucifié Jésus, qui l'a fait crucifier, le centurion, au chapitre 15e, verset 39 exactement, vous avez le centurion, donc qui est un païen, qui n'y connaît rien du tout de cette histoire, ayant vu que criant ainsi Jésus avait expiré, il dit, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Ça, c'est le cri d'un païen. Le cri d'un juif au milieu, le cri d'un païen à la fin. Donc, vous voyez que cet évangile embrasse dès le départ le juif et le païen. Voilà, c'est sa manière à lui de nous dire. Et ceci pour le texte de Marc, ou de l'Évangile, ou n'importe quel texte de la Bible, ou n'importe quelle lettre que vous faites, ou n'importe quel livre que vous lisez, chaque livre, chaque écrit, si nous l'écoutons bien, nous dit toujours la manière dont il faut le lire. Vous écrivez un simple billet, eh bien il faut le lire comme un simple billet. Vous écrivez un souhait de fête ou d'anniversaire ou de bon rétablissement, eh bien il faut le lire comme cela. Pas lui faire dire n'importe quoi, mais le lire exactement de la manière dont cela vous est dit dans le texte. Donc faites attention chaque fois que vous lisez au texte, aux mots qui sont écrits, et aussi à tout ce qu'il y a entre les mots, tout cet espace de vie qu'il y a entre les mots, ou de souffrance, ou de joie, ils sont aussi importants que les mots. Parce que les mots vibrent, et il faut découvrir aussi le sens de cette vibration. C'est ce que j'ai essayé de faire en vous commentant brièvement le premier verset. Ces mots vibrent, commencement. Nous commençons. Cette bonne nouvelle, nous la commençons maintenant. Commencement. Je suis toujours au commencement. Nous dire que notre vie est commencement de bonne nouvelle. C'est étonnant, hein? Bonne nouvelle de Jésus, loin, Jésus présent en nous, le ressuscité, loin, image du Messie, pour chacun de nous, nous avons tous et chacun une image bien particulière du Messie, et fils et fille de Dieu, bien-aimé de Dieu. Voilà, nous y sommes, entrée, commencement. Et on vous rappelle que c'est une longue histoire. Et qui dit Messie, qui dit Christ, doit avoir baigné un petit peu dans l'histoire d'Israël. Il doit donc connaître au moins la Torah, la loi et les prophètes. Savoir que ça existait, quoi. Que la Torah, c'est un enseignement, avant d'être un commandement. Et que les prophètes sont des yeux et des oreilles rivés sur la situation. Et qui nous disent comment on peut la lire. La situation au jour le jour. Selon ce qui est écrit en Isaïe le prophète, voici, j'envoie mon messager, si vous voulez traduire le mot messager, traduisez par ange, c'est la même chose, l'ange est un messager. Voici, j'envoie mon messager devant ta face. Et ça, c'est une expression qui vient de l'Exode, où Dieu envoie son messager, c'est-à-dire sa présence en avant de lui, sa présence annonciatrice, devant le peuple d'Israël marchant au désert. Peut-être bien que nous sommes dans un désert, et qu'en avant de nous, il y a un messager qui s'avance, qui préparera ton chemin. Et là, il cite, donc, il cite le prophète Isaïe, mais il cite aussi l'Exode, et il cite aussi le prophète Malachie, qui est le dernier. Et Malachie, le dernier prophète d'Israël dans notre Bible, Malachie veut dire l'ange de Dieu. Malakria. Dieu est messager. J'envoie mon messager. Et comment reconnaître ce messager? Ah, par une voix. C'est un son. Voix de celui qui clame dans le désert. Ah, là, nous retrouvons bien Isaïe, hein, au chapitre 40e. Voix de celui qui clame dans le désert, apprêtez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Une voix dans le désert, ça se perd dans le désert. Ah non, non. Il y a un écho dans le désert. Il y a toujours un rocher qui capte la parole et qui la renvoie. Même lorsque nous sommes nous aussi dans le désert, il y a toujours un point en nous qui peut capter la parole et la renvoyer dans un effet de miroir. La parole n'est jamais pour nous tout seul. Elle n'est pas pour être enfouie. La parole est faite pour être parlée. Vous verrez, Saint Marc utilise cette expression. Et qu'est-ce qu'elle dit cette parole? Apprêtez, aplanissez. Faites que les choses marchent mieux. Mettez de l'huile dans les rouages. Apprêtez, comme on apprête la table. Et aplanissez pour qu'on ne bute pas sur la route. Ces sentiers. De qui? Ben du Seigneur. Parce qu'il vient. Il est toujours en train de venir. Puisqu'il est ressuscité, il peut venir à tout moment. Nous avons entendu une voix. On commence par entendre la voix de quelqu'un, on ne l'a pas encore vue. Et puis, il se présente. La voix prend visage. La voix prend corps. Eh bien voilà, arriva Jean. Qui est-il? On ne nous le dit pas. C'est Jean, baptisant dans le désert, plongeant dans le désert. Curieuse cette expression, hein? Baptisant dans le désert. Où peut-on plonger dans le désert? Ben oui, dans le désert. On le plonge dans cette réalité, dans cette matérialité humaine qui est très souvent vide, comme le désert. Il faut du temps pour que le désert parle. Eh bien, arrive à Jean en plongeant dans le désert et en proclamant, voilà la voix, un plongeon de conversion. traduisons par baptême. Mais baptême, c'est le mot rituel qui vient dans notre tête. Mais c'est d'abord plonger, immerger qui est important, de conversion. Et je demandais à des enfants, qu'est-ce que c'est qu'une conversion ? Et un garçon me dit, il connaissait déjà pas mal de choses, une version, ça je connais bien, c'est quand on traduit du flamand en français. C'est pas mauvais. Mais alors je dis, mais une conversion, c'est quoi ? C'est difficile. Alors, un autre me dit, mais une version, ça veut dire que ça tourne. Ah, je dis, c'est bien, c'est juste, ça tourne, hein. Du flamand en français, ça tourne. D'accord. Et alors, je dis, et une conversion, c'est quoi ? Ben, c'est peut-être quand un con se tourne vers le bon Dieu. C'est pas mauvais, hein ? C'est pas mauvais, hein ? C'est peut-être bien ça. C'est quand un con se tourne vers le bon Dieu. C'est une étymologie populaire, dirons-nous. C'est pas l'étymologie scientifique, mais c'est pas mauvais quand même, hein. Voilà, il proclamait un plongeon de conversion, c'est-à-dire, il signifiait qu'il y avait moyen de se retourner. À n'importe quel âge. Pour un pardon de péché. Pour se laisser purifier. Un pardon, c'est un don qui passe à travers, hein. Qui passe à travers le mal. Et donc, un don qui va jusqu'au bout de lui-même. Donc, le pardon des péchés, c'est recevoir d'être soi-même. Le péché, dans la Bible, ça signifie toujours aller en dehors du chemin. Se mettre un peu en dehors du chemin. Si nous voulions prendre une étymologie scientifique cette fois-ci, ce serait déliré. Lira, en latin, signifie le sillon. Alors, quand on délire, c'est-à-dire quand on s'en va en dehors du sillon, quand vous, hein, quand on laboure la terre, hein, on trace des sillons, si vous allez en dehors, hein, vous allez de travers, c'est ça. Je dirais que le péché, d'une manière générale, c'est toujours un manque de réalisme. C'est toujours être à côté du réel. Le réel, c'est Dieu, les autres et moi-même. Ça, c'est le réel. Et péché, c'est sortir de cette réalité telle qu'elle est. Eh bien, voilà. Il proclame un plongeon de retournement pour un don total de soi-même. Être redonné à soi-même, d'être redonné aux autres et d'être redonné à Dieu. C'est un enseignement terrible, cette proclamation. On ne nous dit pas le détail. Et Marc nous fait toujours grâce des détails. Nous aimerions savoir comment les choses se sont passées ou comment Jésus disait les choses. Non, non, il nous dit pas ça. Il nous dit, c'était une voix. Écoutez-la donc, hein. Et s'en allait auprès de lui tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils étaient plongés par lui dans le fleuve Jourdain en confessant leurs péchés. Voilà. C'est comme si toute l'humanité se sentait attirée par cette voix. Parce que tout le pays de Judée, hein, et tous les habitants de Jérusalem, on sait pas grand chose en fait, hein. Territorialement c'est tout petit. Mais on comprend qu'il y a une totalité là derrière. Autrement dit, que la parole atteint tout un chacun. Mais on était plongé dans le fleuve Jourdain. pas un très grand fleuve. 5 ou 6 mètres de largeur lorsqu'il fait chaud. Mais le Jourdain, ça signifie beaucoup de choses. C'est un passage, le Jourdain. Quand on vient du désert, par la Jordanie, on passe le Jourdain pour entrer en terre promise. C'est un passage dans une terre promise et qu'il faudra conquérir. C'est par là aussi, hein, tout près de Jéricho, que Élie a transmis sa, je n'aime pas dire son pouvoir, sa capacité de prophète, disons, son prophétisme, à Élisée. C'est un lieu de passage. Moïse n'est pas passé le Jourdain, mais Josué y est passé. Donc, on lâche prise pour que l'autre puisse s'avancer. Élie, hein, au Jourdain, il a laissé sa prophétie à Élisée. C'est aussi un endroit de passage. Et c'est là que Jean-Baptiste va laisser le passage à Jésus, s'effacer devant. Et Jean, oh, comment il était costumé, ce Jean-là, hein? Revêtu de poils de chameau, d'une ceinture de peau autour de sa hanche, mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Nous dirions aujourd'hui, il était en jeans effiloché. C'est un peu ça. C'est l'accoutrement du prophète. Vous pouvez le relire. C'est Élie, hein. Élie était costumé de la même manière. C'est-à-dire, en toute simplicité. Nous nous trouvons devant un prophète. Quelqu'un qui nous dit ce que nous vivons. Et il proclamait. C'est tout le temps des voix, hein. Voix, proclamation. Importance de cette voix pour susciter en nous ce que nous sommes, au plus profond de notre être. Et il proclamait en disant, « Oh, il vient, le plus fort que moi, derrière moi, je ne suis pas digne, littéralement, je ne suis pas suffisant, je ne vaux pas le coup, quoi. » En me courbant de délier la courroie de ses sandales, je ne peux même pas faire le travail d'un esclave. Je ne suis pas digne. Je suis rien du tout. Moi, je vous ai baptisé, je vous ai plongé d'eau. C'est de l'eau. L'eau, ça signifie qu'on se lave de tout ce qui est souillure, intérieure ou extérieure. Et dans le désert, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut aller sur le bord du désert, c'est-à-dire au Jourdain. Lui vous baptisera, vous plongera d'Esprit Saint. C'est quoi l'Esprit Saint? L'Esprit dans la Bible, c'est le vent de Dieu, le souffle de Dieu. Et ce souffle est toujours dynamique. L'Esprit Saint, ça se rencontre peu dans la Bible. Psaume 50, là, hein, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Et puis un passage très important dans le livre d'Isaïe qui nous parle d'Esprit Saint. Ça c'est vraiment, nous dirions, le noyau de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. C'est la sainteté de Dieu qui passe dans le vent et dans notre souffle jusqu'à l'intérieur de notre être. Et je lis justement un beau psaume du livre d'Isaïe, 63, fin 63, début 64. Pourquoi, Seigneur, nous laisser errer loin de tes voies et endurcir nos cœurs en refusant ta crainte? Reviens à cause de tes serviteurs et des tribus de ton héritage. N'oublie pas, nous avons une relation, hein, avec toi. Pour bien peu de temps, ton peuple saint a joui de son héritage. Simplement 80 ans, hein, on a été un peuple unifié. Après, ça s'est cassé. Nos ennemis ont piétiné ton sanctuaire. Les Babyloniens ont détruit Jérusalem. Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portent plus ton nom. Ne plus porter le nom de Dieu, c'est devenir inexistant. Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. Comme le feu fait enflamme les brindilles, comme le feu fait bouillir l'eau, pour faire connaître ton nom à tes adversaires, devant ta face, les nations trembleraient quand tu ferais des prodiges inattendus. Et, justement, il parle dans ce contexte de l'Esprit de Dieu, de cet Esprit Saint que Dieu doit manifester en déchirant les cieux. Qu'est-ce que ça veut dire, déchirer les cieux? Quand il ne pleut pas, le ciel est fermé. Quand il pleut, les cieux sont déchirés et la bénédiction tombe. Donc déchirer les cieux, cela veut dire envoyer l'esprit de prophétie. Faire que les gens puissent se mettre à parler et à se parler les uns aux autres. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Vous avez confessé vos péchés, hein? Mais vous êtes encore seul. Lui vous plongera d'Esprit Saint, c'est-à-dire il vous fera communiquer les uns avec les autres. Comme à la Pentecôte, quoi, hein? Et il arriva. Bon, il y avait Jean qui était déjà arrivé. Et maintenant, il arriva en ces jours-là. Jésus vint.